Cher Moll, première partie, chapitre 5. L'été fut très chaud cette année-là. Tout le jour, les filles couchées sur le divan du petit salon sommeillaient, presque nues. Et dans la pièce sombre, un silence continuellement pesait. Parfois, une mouche bourdonnante venait planer au-dessus des chairs molles, et une femme la chassait en jurant. Nul ne travaillait. Lucie elle-même abandonna son tricot. Ça l'impatientait de sentir toujours les aiguilles glisser entre ses doigts humides de transpiration. Elle vivait dans une paresse avachie. Les parties de campagne se renouvelèrent rarement. La Donard ne les organisait qu'aux grandes occasions. Et encore, si la conduite de ses pensionnaires l'avait complètement satisfaite. Et les soirées aussi s'écoulaient, mornes. Il ne venait plus de clients. Tous avaient déserté la ville universitaire dès le mois de juillet. À peine, de temps à autre, un voyageur entrait au salon, jetait sur la table son guide et sa lorgnette, s'écroulait sur le canapé dans un harassement. Il restait peu avec les femmes, pressé de monter, de reposer en un lit la lassitude de ses membres. Ce n'étaient plus les gaies réunions d'hiver, où les chants, les danses, les histoires drôles amusaient ces dames. Personne qui leur prêtât un roman. Toute distraction manquait. L'ennui bientôt empoigna Lucie Tirache. Elle se perdait en des rêvasseries monotones. Elle songeait à son passé, à son amour pour Léon, et des regrets sans cesse la tristèrent. Et puis, c'était une appréhension terrifiante de l'avenir. Elle vieillirait, se fanerait, et quand elle aurait perdu fraîcheur et beauté, on la chasserait des maisons chères. Elle roulerait de bordel en bordel, jusqu'au jour où elle tomberait dans les maisons à un franc. Ses bouges infectes, dont les roulures de passage parlaient avec dégoût, ces bouges où il fallait se livrer à des gens malpropres et à des soldats ivres. Enfin, quand elle serait tout à fait décatie, on la mettrait dans la rue. Et alors, que deviendrait-elle? Peut-être aurait-elle la chance de mourir auparavant. Cela vaudrait mieux, sans doute. C'était pourtant les hommes qui la menaient là, avec leur sale passion. Oh, si jamais elle pouvait se venger d'eux! Comme elle leur en voulait, à ces salauds-là! Et toujours, l'image de la mort s'offrait à elle comme une promesse de délivrance, comme le terme désirable de ses malheurs et de son asservissement. Obsédée par cette pensée, elle la poursuivait dans toutes ses conséquences. Elle se représentait son enterrement, le catafalque élevé dans le couloir au mur rose. Et si elle décédait au 7, certainement la bière ne pourrait passer dans l'escalier, il faudrait la descendre au moyen de cordes. Cette idée surtout lui était pénible. On la déposerait dans la fosse commune, sans une inscription, sans une couronne. Soudain, Lucie Tirache se révoltait contre la hantise de cette songerie lugubre. Elle s'écriait « Ah, que je suis bête !» Et elle courait à ses compagnes, les réveillant d'une claque, clamant dans un ricanement qui voulait étouffer un sanglot. « En avant la musique !» Et elle chantait. Elle chantait des couplets d'opérettes, des romances en vogue, des scies désopilantes. Laurence, assise au piano, tapotait l'accompagnement. Toutes psalmodiaient le refrain en chœur, et dans la maison, un concert de sons aigus montait. Madame accourait, furieuse, menaçant de fermer l'instrument si on continuait un pareil tapage. Alors le charivari cessait. Une à une, elles chevrotaient leurs airs favoris. Laurence se renversait au dos de sa chaise, s'accompagnait d'une main, allongeant doucement l'autre bras en l'air, suivant le rythme, et soupirait d'antiques romances sentimentales. Reine avait la spécialité des couplets grivois. Elle les clamait à tue-tête, appuyant avec des intentions sur les mots crus, soulignant chaque gauloiserie d'une claque violente sur les cuisses. Lucie Tirache prit goût à ces exercices. D'abord assez inhabile, elle étudia le solfège, apprit à lire ses notes, et s'appliqua avec une scrupuleuse attention à chanter en mesure. Elle passait ses après-midi à susurrer des airs en cherchant les inflexions justes, et sans se lasser, elle répétait 20 fois des tâtonnements vocaux, des ébauches de ritournelles. Peu à peu, elle devint assez bonne chanteuse. Elle était très fière de son talent, se promettait, la prochaine saison, s'attacher tous les clients par son habileté musicale. Et déjà, elle se voyait en possession de sérieuses économies. Elle pourrait acquitter ses dettes, reconquérir sa liberté, mener une vie indépendante et calme. Et infatigablement, elle solfiait. Au milieu de ses occupations, une angoisse la poignait. Elle avait connu une fille de passage, atteinte du mal vénérien, et depuis, le spectacle des accidents qu'elle avait observés la hantait, lui inspirait à la fois épouvante et répugnance. Tout en redoutant ce mal terrible, elle l'attendait comme une conséquence inévitable de son métier. Les jours de visite, lorsque la gouvernante, venue de bonne heure frapper à sa porte, l'avait avertie de se tenir prête, elle s'apeurait, devenait très pâle. Elle découvrait avec précaution l'homme étendu à son côté, soigneuse de ne point l'éveiller, visitait le corps en une inspection minutieuse. Si par hasard elle apercevait sur ses membres un furoncle de mauvais aspect, Lucie Tirache interrompait par de brusques caresses le sommeil du Michet, et très inquiète, elle cherchait, jusqu'à ce qu'il fût parti, à amener, par d'habiles insinuations, l'aveu d'une maladie récente. La réponse toujours négative la rassurait peu. Restée seule, elle se livrait sur elle aux mêmes examens, s'affolant à la vue d'une rougeur, d'une tache. Sa terreur, chaque jour, croissait, entretenue, avivée encore par les récits que lui faisaient les autres filles. Sur un ton navré, elles se communiquaient leurs craintes, exagéraient les descriptions du mal. Puis, tout à coup, quand Lucie, rendue furieuse, voulait les interroger afin de se mieux garantir, elle se moquait d'elle en affichant une subite insouciance. Seule, une femme nouvellement enrôlée, Léa, une Parisienne, se complaisait à satisfaire aux questions de Nina. Durant des heures, elle narrait les symptômes, racontait des traitements, et Lucie l'écoutait, en une attention muette, complètement asservie par l'érudition de cette fille. Elle était grande et mince, très nerveuse, incapable de rester en place. Ses vêtements semblaient la gêner. Elle en mettait le moins possible, et se promenait par toute la maison, voilant à peine ses nudités sous d'amples peignoirs de soie. On la rencontrait partout, en haut et en bas, dans la cuisine et au salon, toujours affairée, agitant dans un rire continu sa tête couverte par les frisures noires d'une chevelure coupée court, montrant des dents petites qu'elle faisait souvent craquer dans un tic. Comme elle était arrivée au 7 avec de fortes dettes, son crédit auprès de la patronne était mesuré. Aussi empruntait-elle aux unes et aux autres les objets dont elle avait besoin, payant d'une plaisanterie ou d'une histoire. Lucie, surtout, incapable de résister à ses prières pressantes, était sa pourvoyeuse la moins avare de pots de pommade et de parfums. Un jour, Léa vint demander à sa bonne Nina une paire de jarretières bleues qu'elle convoitait. Elle la trouva occupée à laver ses cuisses à grande eau. « Qu'est-ce que tu fais là ? » demanda-t-elle. « Tu vois, je me lave, j'ai des rougeurs ici, je ne sais pas ce que c'est. »«
Mais c'est rien du tout !» fit Léa après avoir examiné.
« Qui sait ? C'est peut-être le mal. »«
Ah oui, t'es folle !»«
Oh, si tu savais comme je suis au sang-cou !» reprit Lucie. « C'est demain la visite, j'ai une peur bleue. Le docteur qui a l'air bonasse comme ça, au fond il ne rigole pas. » Et si on a la moindre chose, vlan, il vous flanque à l'hôpital. C'est réglé.
Il n'y a pas besoin de lui montrer ses misères.
Avec ça qu'il ne les voit pas.
Allons, tu ne sais donc pas les cacher.
Oh, bien, rue d'Aboukir, nous arrangions ça. Il n'y voyait que du feu, le médecin. On a des trucs.
Quels trucs?
Oh, je te dirai ça. Fais voir un peu si tu as quelque chose.
Ayant fait mettre Lucie sur le lit, Léa commença à la retourner sur toutes les faces. La fille se laissait faire comme un enfant. L'autre lui joignait, lui disjoignait les jambes, lui faisait étendre les bras, les ramenait au torse, suivant d'un œil exercé tous les plis de la peau et tous les contours des membres. Soudain, elle éclata de rire, déclarant « Mais tu n'as rien du tout, grosse bête !»«
C'est bien sûr !»«
Oh, tu peux t'en rapporter, ma fille. Je m'y connais un peu. J'en ai déjà soigné dans ma vie de ces petites histoires, va !»«
Oui, j'en ai soigné !»
répéta-t-elle, en chatouillant par tout le corps Lucie qui, se contorsionnant, la repoussait, moitié riant, moitié fâchée.
« Oh non, voyons, je t'en prie, laisse-moi !»«
Ah, tu me fais chercher comme ça, pour des prunes ! Attends, tu vas voir comme je vais me venger !»
Et Léa continuait ses chatouillements. Ses doigts allaient par toutes les rondeurs du corps, le long des côtes, simulant les mouvements allongés d'une araignée qui court.
Lucie mollement se défendait. Sa peau frémissait sous les attouchements délicats, sous les effleurements des grands ongles de Léa. Elle ressentait une grande émotion l'envahir. Sa poitrine se soulevait par secousses. Elle cacha sa figure dans ses mains, demandant
« Oh non, laisse-moi, je t'en prie !»«
Que je te laisse ? Tu ne voudrais pas. Tu es trop contente. Attends un peu. »
Et Léa, en serrant sa taille, se mit à l'embrasser sur le cou, sur la poitrine. De sa langue rose, à petits coups, elle piquait la peau blanche de Lucie, les pointes des seins qui se dressèrent. Par instants, elle interrompait ses caresses pour contempler son amie dans une sorte de malicieuse attente. Tout à coup, comme prise de rage, elle appliqua à plusieurs reprises sa bouche sur le ventre poli et, brusquement, enfouit sa tête dans les chairs blanches qu'elle étreignit avec violence. Lucie eut un long frisson, ferma les yeux, se cacha la face dans ses bras, et, sous l'influence rapidement croissante d'une volupté inconnue, elle sentit ses nerfs se tendre et se détendre délicieusement en une précipitation qui s'accélérait. C'étaient des soubresauts, des halètements rauques, des sanglots. Alors Léa, se relevant, se précipita sur le corps de Lucie, se mit à couvrir de baisers sa face, sa gorge, et les femmes se pâmèrent, bouche à bouche, dans un spasme furieux, interminable.
Chapitre 6. De ce jour, naquit entre elles une étroite intimité. Maintenant, Lucie Tirache ne pouvait pas se passer de Léa. Assise près d'elle, en un coin du divan, elle aimait rester des journées entières, les jambes enchevêtrées aux siennes, les mains en serrant sa taille, la regardait toujours. Elle ne travaillait plus. Elle était toute à cette affection qui la distrayait de sa vie monotone, éloignait les souvenirs tristes, les appréhensions terrifiantes. Et elle trouvait un ineffable plaisir à procurer à cette fille toutes les joies, à veiller à son bien-être avec une constante sollicitude. En retour, elle recevait des caresses, des protestations d'amitié et de dévouement qui la charmaient. C'est que, jusqu'alors, dans sa vie nouvelle, Lucie avait souffert d'un isolement pénible. Elle ne sentait entre ses camarades et elle aucun lien affectueux. Les câlineries qu'on lui prodiguait pour obtenir de sa bonté quelques services cessaient sitôt le service rendu. Elle s'en désolait, prise de la vague appétence d'un attachement plus durable. D'abord, elle avait recherché l'affection de quelques clients du set. Mais souvent leurs visites s'espaçaient, et même s'ils venaient chaque soir, la longue attente où elle restait toute l'après-midi lui devenait une douleur. Et puis, en la présence des hommes, elle se sentait gênée. Dans le plaisir, dans les conversations, on la traitait toujours comme une inférieure vénale, jamais comme une égale. Ses expansions étaient repoussées, crues feintes, moquées. Et il fallait encore, le métier l'exigeant, gratiner de faveurs semblables les indifférents et les êtres chéris. Cela la répugnait fort. Ainsi, les mâles ne pouvaient satisfaire à ses désirs d'épanchements amoureux. Elle renonça très vite à chercher parmi eux l'idéal rêvé. Cet idéal, elle se le représentait surtout par le souvenir. C'était Léon, non l'amant, le maître, mais l'amoureux d'avant sa chute, qui l'étreignait toujours, lui chantant de flatteuses paroles, empressé à lui éviter tout chagrin. Lorsqu'elle eut connu Léa et sa tendresse, il lui sembla que ses aspirations étaient réalisées bien au-delà de ses rêves. Cette fille savait joindre à une grande habileté amoureuse un raffinement délicat dans le choix de ses prévenances. Vautrée tout le jour aux côtés de Lucie, elle ne tarissait pas son admiration pour les sveltesses de l'adorable Nina, pour les pâles matités de ses chairs, pour la petitesse rare de ses extrémités. À chaque exclamation élogieuse de ses longues et fines mains, elle caressait les membres ventés avec une chatouillante lenteur. De tels attouchements, fréquemment répétés, maintenaient Lucie Terrache en un énervement délicieux. Une telle apologie de ses charmes, murmurée en languissantes inflexions, était à la fille une harmonique mélodie, berceuse de son imagination somnolente. Puis, soudain, à la vue de cette femme couchée sur ses genoux, faisant saillir pour elle les courbes lascives de son corps, tournant vers son visage de grands yeux noirs tout humides de larmes amoureuses, une triomphante vanité empoignait Lucie. Elle était reine, l'autre esclave. Ses gestes ordonnaient, ceux de l'autre affirmaient obéissance. Et il lui prenait parfois une rage d'afficher son autorité, des envies féroces de torturer cet être si beau, de pouvoir crier ensuite « Cette femme est à moi, c'est mon bien !» Elle ressentait aussi une vindicative jouissance à verser en ses mains tout l'or de ses profits. La chair en vente perpétuelle achetait de la chair à son tour. Elle, toujours possédée, possédait enfin. Et elle entendait jouir de cette possession dans toute sa plénitude. Léa ne devait jamais la quitter. À un asservissement de toutes les minutes, Lucie astreignait son amante, heureuse d'imiter les mâles qui la tenaient elle-même, sans un répit, à leur disposition. Et d'autant plus parfait était son bonheur, d'autant plus sûr ses représailles, que Léa, avec la gracilité élégante de ses formes, avec sa chevelure bouclée, coupée court, son langage brutal et son habitude de jurer, approchait davantage à la virilité. Mais c'était une virilité gracieuse, exquise, originale, bien différente de l'autre. Ses brutalités, si spontanées qu'elles fussent, paraissaient toujours affectées. Sous les paroles les plus grossières, perçait comme un affinement de la pensée, une subtile intention de parodie. Sous un geste brutal, des souplesses se devinaient. Et puis, de ce corps toujours en mouvement, à peine vêtu de soieries volantes, sourdaient d'odorantes effluves qui saoulaient Lucie, l'affolaient de passion. Tantôt, c'étaient les fines émanations de la verveine, de la violette, et la fille se plaisait à les humer sur la nuque rose de Léa, parmi les frisons bruns qui chatouillaient ses narines frémissantes. Tantôt, les forts parfums du patchouli ou du musc s'exhalaient de son amie, quand elle courbait le torse ou soulevait les bras. Et alors, avec de grands battements de cœur, elle se serrait à son amante, aspirant de toutes ses forces les grisantes suavités, laissant ses mains se perdre sur la peau humide et satinée, bien autrement douce que celle de l'homme. Et malgré ce satinement, cette douceur, malgré les molles rondeurs où elle semblait s'enfoncer, Lucie se sentait aussitôt étreinte, avec une énergie qu'elle ignorait chez les mâles les plus robustes. Elle était embrassée furieusement sans être meurtrie, mordue sans être blessée. Elle goûtait d'infinies délices, où paraissaient ensemble et des alanguissements, et des tensions, et des faiblesses, et des vigueurs. Mais le pouvoir de les rendre exclusives multipliait les charmes de ces voluptés. Nul de ses plaisirs n'était répété avec d'autres. Elle gardait le secret de leurs délices. Elles éprouvaient une grande joie à se regarder devant les pensionnaires du 7, d'une façon à elles particulière, en se passant la langue sur les lèvres, qui évoquait en leur esprit la pensée de leur secrète félicité. Et cet amour grandissait. Quand son amie était absente, Lucie se sentait prise de mélancolie. Ses anciennes épouvantes lui revenaient, et les moments qu'elle passait ainsi en des rêveries lugubres lui faisaient apprécier davantage la présence de Léa. Elle s'aperçut aussi qu'elle avait une rivale, Laurence. Cette femme avait d'abord paru très intriguée de leur intimité. Bientôt, elle sembla désirer vivement connaître les charmes et les talents de la Parisienne. Elle la comblait de présents, lui adressait mille compliments, lui procurait des michets riches. Il y eut une lutte de générosité. Lucie se promit de ne pas se laisser vaincre. À elle seule appartenait de parer Léa luxueusement comme une amante adorée. Chaque jour, cette fille se trouva ornée de rubans neufs, de colliers différents. D'abord, Lucie méprisa ses efforts. Léa l'aimait trop, et l'autre n'était pas assez séduisante. Elle perdait son temps. Mais, à mesure que les cadeaux de sa rivale furent présentés plus beaux, à mesure qu'elle vit Léa devenir plus aimable pour cette femme, ses dispositions changèrent. Elle fut prise d'une rage sourde contre cette Laurence. Une voleuse, car enfin, elle aurait donné tout ce qu'elle possédait pour garder l'amour de Léa. Et vouloir lui prendre Léa, c'était vouloir lui prendre tout son bien. Et puis, c'était de furieuse colère contre son amante, qui n'était pas assez revêche à l'égard de cette femme. Elle l'accablait d'injures, l'avilissait de toutes les épithètes infamantes. Et soudain, dans une peur qu'elle ne fût fâchée et ne courût se jeter au bras de l'autre, elle se faisait petite, suppliante, pleurait à ses genoux en lui demandant pardon. Mais ces humiliations qu'elle s'imposait augmentaient encore sa haine contre Laurence. Pour l'agacer, elle ne négligeait aucun moyen. Elle avait repris ses chants, et sans cesse, elle adressait à Léa les paroles amoureuses de ses romances avec de tendres œillades. Elle exigeait que son amie lui donnât, devant sa rivale, les marques les plus évidentes de la passion. Et le soir, au salon, elle s'ingéniait à enlever les clients de Laurence, la dénigrant auprès de tous. Mais l'autre ne se lassait pas. Ses cadeaux arrivaient plus nombreux et plus riches. Lucie fut obligée à y répondre par d'autres présents plus riches encore. Toutes deux s'endettèrent auprès de leurs camarades. Enfin, Lucie triompha. Elle donna à son amante des boucles d'oreilles en or vrai. Et dès lors, son mépris pour l'autre éclata. Elle la savait ruinée, incapable d'un nouvel effort. Ce furent de continuelles moqueries. Lucie tournait en dérision toutes ses paroles, toutes ses attitudes, tous ses actes. Des scènes violentes eurent lieu. Avec des injures, elle se menaçait en une furieuse gesticulation. Mais madame intervint, leur déclara que si elles ne parvenaient à s'entendre, elle les enverrait toutes deux au diable, loin de leur chère Léa. Elles durent se contenter alors d'échanger des allusions blessantes, un débinage mutuel de leurs décatissures. Cependant, quand elles pouvaient se rencontrer seules, en un couloir désert, en une chambre vide, des luttes silencieuses s'engageaient, où, armées de leur peigne, une flamme haineuse dans le regard, elles se faisaient de profondes égratignures, s'arrachaient des poignées de cheveux, se déchiraient leurs vêtements. Chapitre 7. Toutes étaient réunies au couloir du premier étage pour la visite. Vêtues de chemises décolletées, elles s'appuyaient au mur, et la blancheur du linge propre tachait crûment le rouge sombre des boiseries. La patronne, adossée à la rampe de l'escalier, lisait le Petit Nord. À une porte, le docteur se montra, laissant échapper une femme, interrogeant « À qui le tour ?» Un frisson courut parmi les filles, avec un murmure. Elles se poussaient mutuellement vers lui. Nina se trouva la plus proche. Il lui donna une tape sur l'épaule et l'emmena en goguenardant. Maintenant, Reine racontait que cette fois encore elle l'avait échappé belle, et les autres répondaient très bas, pénétrés de l'importance solennelle de cet examen. Un temps assez long s'écoula sans que Lucie reparût. Anxieusement, les femmes regardaient cette porte qu'on ne rouvrait pas. Elle s'étirait et s'agitait dans un malaise. Laurence se fâcha même presque haut. « Ah ça, est-ce qu'elle allait les faire poser longtemps ? C'était pas permis de vous faire droguer ainsi quand on avait une frousse pareille. » Madame finit par lever les yeux. Elle demanda « Mais qu'est-ce qu'elle fait donc ?» Enfin, Nina revint. Elle avait les yeux fixes, la face exsangue, un tremblement agitait ses mains. Le docteur la suivait. Il s'approcha de la rampe et s'entretint avec madame. Lucie Tirache restait debout, dans une hébétude désolée. Parfois, sous la longue chemise encadrant les tons d'ivoire de la peau, une secousse montait de ses jambes, la faisait se raidir, et dans son esprit, les idées lentement s'associaient. Ainsi, elle était prise, empoisonnée par ce mal qu'elle avait tant redouté. Elle était perdue sans remède. Fallait-il être canaille tout de même pour infecter ainsi une pauvre fille sans raison? Qu'allait-elle devenir? Elle regardait le tapis, sans voir. Son corps semblait insensible. Elle sentait seulement la pesanteur de ses mains au bout des bras ballants. « Eh bien, ma pauvre amie, il va falloir nous quitter. » La patronne était devant elle et lui prenait les mains en une étreinte de commisération. Lucie, d'abord, ne saisit pas le sens de ses paroles, mais elle comprit qu'on s'intéressait à elle, et un moment, elle considéra Madame Donnard en souriant avec une douceur stupide. Puis, vaguement, elle eut une résonance des mots prononcés, et elle demanda, inquiète, « Comment nous quitter ?»« Mais oui, ma pauvre Nina, tu le sais bien. » Elle se souvint. Le règlement voulait que les femmes arrêtées à la visite fussent conduites à l'hôpital dans la journée. Aussitôt, cette idée d'hôpital la terrifia. Elle y voyait à la fois une prison, un lieu d'infamie et de torture. Elle s'écria. « Oh non, madame, vous ne me laisserez pas partir, n'est-ce pas ?»« Mais tu sais bien que je n'y puis rien, » fit la Donnard, étonnée de cette résistance. « Oh, gardez-moi chez vous, vous me cacherez quelque part, où vous voudrez, mais pas d'hospice. Oh non, pas l'hospice, je ne veux pas. » Elle éclata en sanglots. Sa terreur était au comble. Il lui semblait que si elle allait là-bas, tout serait fini. Elle mourrait seule, abandonnée à la merci des carabins. Et en un instant, toutes les accusations qu'elle avait entendues proférer contre les hôpitaux lui revinrent à la mémoire. Elle se vit opérée douloureusement, battue par les sœurs, affamée. On l'étendait sur des tables de marbre, à côté d'instruments tranchants, et l'image de son corps, tout semé de plaques rouges, tout bossué d'ulcères, venait encore s'imposer à elle, impitoyablement, augmenter son désespoir. Soudain, elle se rappela une histoire contée par Léa. Une patronne, à Paris, avait su soustraire ses filles aux investigations de la police. Elle se figura que la Donnard avait le même pouvoir, et pour la supplier d'en user en sa faveur, elle se répandit en objurgations. « Oh, madame, je vous en prie, gardez-moi. Enfin, c'est chez vous que j'ai attrapé ça, à votre service, pour vous gagner de l'argent. Dites, n'ai-je pas toujours été une bonne fille? Vous ne pouvez pas m'abandonner ainsi. Mon Dieu, pauvre fille que je suis, pourrie à 22 ans, pourrie à 22 ans. » Les poings aux tempes, les yeux fermés, elle répéta plusieurs fois ces mots, qui résumaient tout son malheur, tout son avilissement, toutes ses craintes. Puis elle se remit à pleurer, regarda la patronne qui semblait impatiente et faisait de grands gestes, en parlant au docteur, prêt à partir. Alors Lucie lui lança des phrases dramatiques qu'elle avait entendues autrefois au théâtre et dont la réminiscence venait s'imposer à elle tout à coup. « Pitié, pitié, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne le voudriez pas. » Le docteur était descendu, après avoir rassuré d'un signe la Donard bouleversée. Et maintenant, cette femme se révoltait, parlant très haut à ses pensionnaires. Mais on n'avait jamais vu. Cette fille était vraiment folle. Elle savait bien ce qu'il en était en se mettant en maison. Elle n'avait qu'à ne pas y entrer. Voyez-vous ça, elle, la patronne, aurait trimé pendant 20 ans pour arriver à faire fermer son établissement, afin de contenter les caprices d'une espèce qui se laissait communiquer la pourriture à plaisir. On a beau être bonne, on ne peut pas être bête. Voilà qu'on lui faisait des scènes maintenant, comme si c'était elle qui donnait la maladie.
Lucie Tirache, voyant l'insuccès de ses paroles, se perdit en une mimique exagérée. Elle se contorsionnait, se jetait à genoux, tendait les mains, se relevait. Pour toute réponse, la patronne commanda.
« Allons, va prendre tes affaires. Puisque tu n'es pas plus raisonnable, on va venir te chercher. Tu partiras tout de suite. Tu veux pas y aller ? J'y vais moi-même. »
Elle entra dans la chambre de Nina. Lucie s'était tournée vers ses compagnes, qui l'examinaient, l'air navré.
« Léa, Germaine, Emilia, mes amis, je vous en prie, demandez qu'on me garde. « Oh, si vous saviez comme j'ai peur, je ne veux pas aller à l'hospice, je ne veux pas !»
Et la phrase s'acheva dans des sanglots. Les filles, très émues, pleuraient. La Donard revint. D'un geste, elle renvoya les femmes, et s'étant penchée à la rampe, elle se retourna.
« Allons, vite, il faut filer, on vient te chercher !»« Oh non, ce n'est pas vrai, dites !»
demanda encore Lucie parmi ses pleurs. Un agent parut sur la dernière marche, et derrière lui, deux hommes en tablier blanc s'avancèrent vers la fille. À leur vue, elle se recula. Une colère, brutalement, l'envahit contre madame qui l'abandonnait. Ses muscles se tendirent, elle prit son élan pour s'élancer sur la patronne, hurlant.
« Canaille, va !»
Les infirmiers l'avaient empoignée, ils la retenaient dans leurs fortes mains. Lucie, féroce, rageait, crachant à la Donard, qui haussait les épaules au fond du couloir.
« Tu me le paieras. C'est de ta faute, grosse vache. Tu recevais toutes sortes de crapules dans ton ignoble boutique. Oui, c'est de ta faute. Je te la ferai fermer, ta sale boîte. Tu y as reçu des enfants qui n'avaient pas 17 ans. Attends un peu que je sois guérie. Tu en verras de rude, toi et ton grand maquereau de Donard. »
Les hommes en tablier blanc descendaient en l'emmenant, tâchait à maîtriser ses brusques mouvements. Elle, dans sa fureur, luttait, criait des injures. Ayant relevé la tête au bas de l'escalier, elle vit Léa, accoudée curieusement à la rampe, et l'entendit se plaindre.
« Zut alors ! Moi qui ai encore bu dans son verre hier soir !»